Marie-Coquille Chambel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de théâtre et doctorante. Vous avez contribué à MeToo Théâtre, un livre plein de colère et de révolte. Quelle est l'histoire de ce livre ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé le MeToo Théâtre, le hashtag sur les réseaux sociaux en octobre 2021. Et on voulait se rassembler après cette effervescence en fait de témoignages sur les réseaux sociaux. Et donc, on a fait un rassemblement devant le ministère de la Culture et devant la Comédie Française avec plus de 200 personnes qui étaient présentes. Et en fait, on avait demandé à des autrices, des metteuses en scène, plein de personnes du milieu théâtral de réagir en fait au lancement du MeToo Théâtre. Et du coup, on a eu beaucoup de textes qui nous étaient envoyés et... On les avait lus à ce moment-là, au moment du rassemblement. Et en fait, c'était trop dommage de juste garder ces textes pour nous, qui sont des textes qui sont assez forts, qui sont militants, qui sont engagés, qui sont très personnels aussi, assez intimes. Et du coup, on a décidé de les publier aux éditions Libertalia.
S'il y en a eu beaucoup, comment est-ce que vous avez sélectionné les textes qui sont publiés dans ce livre ?
En fait, il y a deux sortes de textes dans ce livre. Il y a à la fois les textes qu'on a commandés et du coup qui sont des textes d'auteurs et d'autrices et de comédiens-comédiennes et aussi des témoignages en fait, qu'on a reçus sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas simplement laisser la parole aux personnes qu'on connaît déjà, nous, qui sont dans nos cercles proches, en fait, parce qu'on se connaît quand même particulièrement bien dans le milieu théâtral parce que c'est un tout petit milieu. Mais on voulait aussi laisser la parole à des personnes qui sont plus anonymes, qui étaient par exemple en école de théâtre et qui ont subi certaines formes de violence. Donc en fait, il y a ces deux textes-là qui sont ensemble et qui forment en fait la réalité du mouvement MeToo Théâtre.
Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de témoignages ? Ou est-ce qu'il y en a qui vous ont étonné ?
En fait, moi, dans le milieu théâtral, je connaissais déjà ces histoires pour en avoir vécu aussi personnellement. Et en fait, on en parlait de notre côté, c'est-à-dire qu'on se prévenait entre nous... par exemple, de personnes qui pouvaient être violentes, qui pouvaient être insistantes. Donc, en fait, personne n'est surpris. Ce qui est surtout assez déstabilisant, c'est le nombre de comédiennes qui étaient en école de théâtre et qui étaient très jeunes, en fait, au moment où elles ont subi des violences parce qu'elles étaient aussi moins préparées et qu'il y a tout un rapport hiérarchique qui crée encore plus de situations de violence et d'abus.
En octobre 2021, vous avez déclaré avoir été violée par un comédien de la Comédie Française. Toujours membre de la Comédie, même si la direction est informée de l'existence d'une plainte, vous dites que vous avez subi des pressions juridiques, politiques et intimes. Vous pouvez en parler ?
Alors, ce qui s'est passé au niveau juridique, c'est que moi, j'ai été jugée pour atteinte à la présomption d'innocence. J'ai gagné le procès. Et dans ce procès, il a été dit que le droit à la liberté d'expression des victimes avait la même valeur normative que le droit à la présomption d'innocence. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Mais les pressions juridiques, ça fait perdre de l'argent. Moi, j'ai pas forcément énormément d'argent face à un comédien de la Comédie Française qui est quand même dans une situation plus confortable. Les pressions institutionnelles, c'est aussi avoir son nom qui revient en boucle chez certaines personnes du milieu théâtral et qui ont pu percevoir chez moi et chez le collectif quelque chose de dangereux en fait. Parce que tout le monde sait qu'il y a des hommes qui sont haut placés et qui sont violents envers les femmes. Et donc c'est à ce degré-là en tout cas que j'ai pu recevoir aussi des violences institutionnelles, en tout cas des intimidations, et puis beaucoup de cyberharcèlement, de menaces de mort, d'incitation au viol, ce genre de choses, mais qui arrivent pour toute personne militante pour les droits des femmes, et puis surtout pour toute femme qui ose s'exprimer sur les violences qu'elle a subies, et surtout si elle politise son vécu, et si elle ne se tait pas.
Est-ce que cela a empiré avec la publication au mois de juin du hashtag MeTooTheatre ?
Le livre, non. Le livre est plutôt bien reçu dans le milieu, en tout cas institutionnel, du théâtre, parce que c'est quelque chose de concret et parce qu'un livre, ça fait bien. S'exprimer sur les réseaux sociaux en son nom, c'est trop intime, c'est trop personnel. Et puis, les seules personnes qui lisent le livre sont des personnes qui ont envie, en fait, de se renseigner aussi sur ce livre-là. Donc, ça crée moins de situations d'intimidation.
Quelle est la particularité du monde du théâtre qui justifie ce hashtag MeToo spécifique ?
Alors, dans le milieu théâtral, il y a plusieurs choses. Déjà, au niveau physique, il y a plus de possibilités pour les personnes de se toucher. Donc, la vision du consentement est déjà un peu plus compliquée que dans d'autres milieux. C'est-à-dire que c'est une situation de jeu. Et puis aussi, il faut savoir différencier à la fois le personnage de la personne réelle, de la personne qui ressent les émotions et les situations de violence. Parce que forcément, il y a des pièces avec de la violence physique, mais il faut que tout ça soit cadré. Et puis, dans le milieu théâtral, vu qu'on est un tout petit milieu, si quelqu'un vient dans un but de séduction, on va en nous proposant un rôle. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est en fait c'est toute cette problématique-là aussi qu'il y a, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit supporter pour réussir dans un milieu où beaucoup de femmes commencent. Il y a plus de femmes au début en fait en école de théâtre, et puis il y a quasiment peu de rôles féminins en fait. Généralement, on est sur 10 rôles masculins, peut-être 3-4 rôles féminins. Donc après, ça crée une situation de tension, de concurrence en plus entre femmes. Et c'est ça qui va créer des situations de violence. Et puis surtout, c'est le fait que ce soit un tout petit milieu. Un tout petit milieu où des choses sont gardées secrètes depuis longtemps. Et puis on se dit, ah non, telle personne en fait est lourde. Mais généralement, quand on dit qu'une personne est lourde, on se rend compte un peu plus tard qu'en fait, il y a eu des situations d'agression sexuelle qui ont pu être répétées. Et puis surtout, ce qui se passe aussi, c'est que là, tous les noms qui ressortent sont des noms de personnes qui ont entre 40 et 50 ans. Et en fait, ces personnes-là ont été en école de théâtre, en conservatoire. Donc en fait, c'est des gens qui se connaissent depuis 20 ans. Et donc, comment on va se mettre à protéger une victime qui est plutôt jeune face à quelqu'un qu'on connaît depuis 20 ans ?
C'est évoqué dans les témoignages du livre également. Les femmes ne sont pas forcément exemplaires en matière de violence.
Oui, en tout cas, en matière de violence institutionnelle, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi. Mais en fait, c'est la problématique du pouvoir que l'on peut avoir. Et puis surtout, quand une femme est directrice de lieu, par exemple, eh ben, elle va devoir prouver mais 50 fois plus que des hommes. Et donc, elle va prendre un rôle de petit chef et du coup, être dans une forme de misogynie intégrée parce que c'est le milieu qui veut ça et parce que c'est l'appel au pouvoir qui appelle ça également. Et puis aussi, il y a eu un manque de sororité à chaque fois qu'une affaire a éclaté, où ça va être beaucoup plus facile, en fait, de se dire « Oui, mais telle victime, en fait, elle est pas parfaite. Peut-être qu'elle a fait telle chose dans sa vie qui n'est pas forcément bien. » Et du coup, c'est tout le système patriarcal, en fait, qui a à revoir. J'ai pas forcément envie de blâmer les femmes qui sont dans des situations où elles ne peuvent pas faire autrement, en fait. Mais c'est vrai que le patriarcat ne concerne pas que les hommes et que la sensibilité à l'écoute de la parole des victimes doit se faire dans toute la société, qu'importe le genre de la personne.
Anne Montfort évoque certaines terminologies nauséabondes, telles que « il faut séparer l'homme de l'œuvre ». C'est une phrase qu'on a régulièrement entendue ces dernières années, pas que dans le monde du théâtre. Quelle est votre position à ce sujet ?
Alors, moi, je milite personnellement, c'est pas forcément le cas du MeToo Théâtre, je milite pour la déprogrammation des spectacles d'artistes qui sont accusés d'agression sexuelle et de viol, sous couvert en tout cas de justice, en disant « bon, bah, il y a une plainte qui est déposée, on verra ce qui se passera ». Tant qu'on laisse les hommes qui sont suspectés ou qui sont condamnés, parce qu'il y en a aussi, à leur place dans l'économie en fait, du spectacle vivant, déjà, qu'est-ce qu'on va dire aux victimes ? On va dire, ok, vous parlez, vous risquez de perdre votre métier, vous risquez d'avoir des animosités envers des personnes, on va vous prendre pour quelqu'un qui n'a pas d'intimité, qui n'a pas de pudeur, tandis que les hommes, quand ils sont accusés, en fait, quand il y a une plainte, il ne se passe rien. Quand il y a un classement sans suite, il ne se passe rien. Quand il y a juste des rumeurs, il ne se passe rien. Quand il y a une condamnation, il ne se passe rien. Quand la personne fait de la prison, elle revient. Donc en fait, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de notre éthique et de notre morale personnelle ? Moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas séparer parce que la personne qui agresse est aussi la personne qui va créer une œuvre. Et généralement, en plus, ce qu'on a dans le milieu théâtral, mais dans d'autres milieux, c'est que plus une personne va être violente, torturée, plus on va dire que cet homme-là est un génie. Et en fait, ça se répercute sur toutes les personnes qui travaillent avec elle.
Mais est-ce que ce n'est pas une attitude qui manque cruellement de nuances ?
C'est-à-dire ?
D'être pour la déprogrammation dès qu'il y a une accusation, avant qu'une enquête soit menée, avant qu'il y a quand même présomption d'innocence le droit.
La présomption d'innocence, en fait, elle garantit qu'une personne ne soit pas condamnée par avance. Une condamnation, c'est une condamnation pénale. Donc en soi, d'avoir une éthique en termes de programmation n'a rien à voir en fait avec quelque chose de juridique. C'est deux choses qui sont complètement différentes et surtout, on amalgame beaucoup par rapport à la présomption d'innocence. Moi, pour avoir été jugée aussi pour attentat à la présomption d'innocence, du coup, j'ai compris ce que c'était parce que je me suis renseignée dessus. Et après, une programmation en fait, de théâtre, on choisit déjà qui on va mettre en avant. Et donc, nous, ce qu'on demande, par exemple, c'est de la parité. Et pourquoi on ne pourrait pas enlever les personnes qui sont suspectées le temps des instructions, par exemple, et on met des femmes à la place pour garantir au moins une égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le milieu théâtral.
Nicolas Racca est l'un des rares hommes à signer un texte de cet ouvrage. C'est assez fort ce qu'il dit de ses propres interrogations sur ce qu'est être un homme accompli. Il explique notamment qu'il a rencontré une forme de courage, je le cite, hein, dont on ne lui avait jamais parlé. Il ne s'agissait pas d'en découdre vaille que vaille, de conquérir de nouveaux territoires, mais de s'enfoncer dans ses propres doutes intérieurs. Vous vous dites que la peur a changé de camp, mais des réflexions de ce type, est-ce que c'est aussi plein d'espoir?
Alors moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir. C'est-à-dire la jeune génération, en fait, connaît tous les concepts que moi, par exemple, je ne connaissais pas quand j'étais adolescente. C'est-à-dire, je ne savais pas exactement ce que c'était qu'une agression sexuelle, ce que c'était que du harcèlement sexuel. Je pensais que c'était voilà, des hommes lourds, ce genre de choses. Et du coup, le fait que la jeune génération puisse déjà se saisir de ce qui est possible de faire et ce qui est pénalement répréhensible, ça donne déjà un peu de courage. Et puis, j'ai pu avoir des discussions assez passionnantes avec des hommes comme des femmes pour leur expliquer en fait juste le droit, pour expliquer aussi ce que c'était que d'avoir été victime en fait de ces agressions-là. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement avec beaucoup plus de sororité. Et oui, ça me donne beaucoup d'espoir et on a besoin des alliés hommes parce qu'on s'en sortira pas juste entre femmes.
Dénoncer les violences sexistes dans le monde du théâtre en l'occurrence, est-ce que cela fragilise ou est-ce que cela donne de la force?
Moi, ça m'a donné beaucoup de force. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai témoigné la première fois, j'ai pas témoigné pour viol directement, j'ai témoigné des violences physiques en fait, que j'avais pu avoir en postant des photos de mes bleus sur les réseaux sociaux. Et en fait, toute mon année 2021, je n'ai été que dans des procédures judiciaires où j'avais peur à chaque fois que je parlais publiquement. Et là, maintenant, j'ai plus peur et puis surtout, on est soutenu. Donc, ça donne beaucoup de force, beaucoup de rage aussi. Et cette rage-là, elle permet d'avoir de l'énergie, de combattre et puis surtout de se soutenir. Et à partir du moment où on a connu les procédures judiciaires, la violence institutionnelle de la justice, on n'a pas envie que ça arrive à d'autres. On a envie de témoigner de ce que c'est qu'en fait que de porter plainte, que d'avoir des expertise psychiatrique, que d'être ausculté par un médecin légiste, enfin plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc oui, ça donne beaucoup de force. Et puis moi, ça m'a vraiment appris ce que c'était que la sororité. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir renoué avec, toute une partie de l'humanité, en fait. Parce que moi aussi, j'étais dans une forme de misogynie intégrée, à ne penser qu'au regard des hommes qu'ils pouvaient avoir sur mon travail ou quoi que ce soit. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'on est une vraie meute, en fait. Une vraie meute qui veut se protéger les unes les autres. Et ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau.
Marie Coquille-Chambal, merci. Je rappelle le titre de ce livre auquel vous contribuez, hashtag MeTooTheatre, paru aux éditions Libertalia.